Dan Mag, T comme Titane.
Dan comme Daniel.
Le magazine de Titane.
Et Dan.
Le Titane Mag, avec la complicité de l'ami éclairé Dominique et de l'ami fidèle
Laurent
à la technique, vous invite à participer à ces rencontres humaines, ses inspirations de l'instant et son désir imminent. Pour prolonger le printemps des poètes, nous avons le plaisir d'accueillir une compagnie de théâtre qui nous promène dans l'écriture. Cette compagnie, née en 2012, est déjà très riche en expérience et en tournée. Nous avons la chance de recevoir aujourd'hui les deux fondatrices du théâtre d'Anoukis, Baïja Lidawan, metteuse en scène et co-gérante de la compagnie d'Anoukis, Maud Hardier, comédienne, harpiste et co-gérante. Dans la plupart des spectacles, elle allie ses deux compétences de comédienne et de musicienne. Toutes deux ont une expérience bien chargée et engagée, dépassant les frontières d'un pays. Elles nous promènent à travers différentes cultures et nous font ainsi partager leur savoir. Merci Baïja Lidawan et Maud Hardier d'avoir accepté notre invitation et de nous mettre dans la confidence de votre nouveau projet en gestation prêt à éclore. Mais tout d'abord, Baïja ou Maud, rappelez-nous ce qu'est le théâtre d'Anoukis et ce qui vous a poussé à créer cette troupe, à donner ce nom de déesse. Comment vous vient cette aventure ?
Ouh là là.
Alors Baïja.
Déjà, merci à vous pour l'invitation. Le théâtre d'Anoukis, c'est une coopérative où on mêle à l'intérieur spectacle, atelier, où on mêle les cultures, les envies, où on essaye modestement de parler de la société avec beauté et de faire des ponts entre nous, entre les habitants, entre les disciplines artistiques, parce que dans l'équipe, on a commencé, Maud et moi, on est maintenant près de 15, et on a tous des savoir-faire et des compétences différentes, et on tente de les partager et d'en faire des petits et des émulations. D'où vient le nom ? Alors, Maud et moi, on s'est rencontrés à l'école Premier Acte. On a commencé à travailler ensemble, notamment autour d'un texte de Toni Morrison qui nous a beaucoup plu, qui s'appelait Un don. Et à la suite de ça, en fait, on a choisi de monter une compagnie, mais elle n'est pas venue avant. Donc ça faisait déjà un an qu'on tournait ?
Ou deux ?
Ouais, deux. Bon, un an et demi. On va couper la poire en deux. Un an et demi. Et on s'est dit, bah, on souhaite trouver un nom, lequel ? Et je crois que c'est toi qui l'as trouvé.
Absolument.
Alors c'est une déesse de...
C'est une déesse égyptienne.
Égyptienne.
Voilà, qui, on va dire, gère les crues et les décrues du Nil pour permettre à la vie de s'installer sur les berges du Nil. Donc, à la base, on a cherché une sonorité. Mmh. Et finalement, en fait, on avait trouvé plusieurs noms. Et celui-ci, par rapport au sens qui s'en dégageait, nous a vraiment interpellés toutes les deux. Et du coup, on s'est mis d'accord là-dessus.
Parce que c'est Anoukis maintenant qui vous fait germer les idées et les projets que vous menez, parce que vous n'avez pas un seul projet, vous avez un éventail de différents projets.
Ah, on a plusieurs fers au feu.
Oui.
Mais là, à l'heure actuelle, il y a un projet important qui nous mobilise, qui s'appelle Itinéraire de travers, dont nous allons sûrement parler. Et qui mêle Uriel Colet-Barquero, qui est une auteure avec qui nous travaillons, qui mêle Marie-Pierre Morel-Lab, qui est une plasticienne également avec qui nous travaillons, et qui a décidé de s'installer dans les Balmes dauphinoises, et nous en sommes ravis.
Et comment c'est à germer cette...
D'où vient l'idée,
et puis je pense
le
que
péché
c'est...
Le originel.
Voilà, et c'est un très très long travail pour aboutir. En fait, on ne se rend pas bien compte, mais... La gestation n'est pas courte.
Non, et l'accouchement non plus, en règle générale. En fait, les projets, moi, en tant que metteuse en scène, c'est moi qui les initie dans l'équipe, au niveau du projet artistique, de ce sur quoi j'ai envie que la compagnie travaille. Et on travaille avec un cycle de création qui dure entre 2 et 3 ans. Donc pendant 2 ou 3 ans, la compagnie va créer, rechercher, organiser des débats, des rencontres, faire des collectes, organiser des spectacles... organiser des banquets conviviaux, auxquels Maud tient beaucoup. et du coup, autour d'un thème qui soude et qui relie l'équipe, un thème de travail. Donc, Route d'Antan, ça a été le projet qui a mené et qui a réuni l'équipe du théâtre d'Anoukis, parce qu'il a été lancé en juillet 2012 autour de la poétesse rome Papoucha. Et oui, toujours la poésie. Et maintenant, itinéraire de travers, ce qui me semblait, moi, être important, c'était la question de l'humain, de l'humanité, la question de savoir à quel moment on croise des gens ou une situation ou quelque chose qui nous fait toucher du doigt qu'on est plus qu'une fonction, qu'on est plus qu'une mère, qu'on est plus qu'une sœur, qu'on est plus qu'une assistante sociale, qu'on est bien au-delà et que les choix qu'on fait sont... avant tout, nous ramène à ce socle, à cette base-là. Et à partir de cette question-là, vaste, philosophique, spirituelle, on va questionner les gens. On va aller à la rencontre des habitants, des associations. Uriel va organiser des recueils de paroles, on va organiser des rencontres, des banquets, si, on va en faire. Et à l'issue de ça, auront lieu, du coup, des spectacles, des ateliers... et moult autres surprises.
Donc c'est tous ensemble, tous ensemble, où vous partez, vous prenez le chemin.
On prend le bateau.
Le bateau, et vous vous arrêtez. Est-ce que vous avez des fonctions bien précises là-dedans? L'un va choisir plus un certain public, ou comment concrètement?
Comment est-ce qu'on a choisi la répartition des tâches?
Parce que l'idée vient de vous,
oui,
déjà.
L'idée, c'est toujours.
C'est juste moi... traverser de travers. Et pourquoi de travers?
Itinéraire,
pardon.
C'est
on
pas
a
grave.
Parlé de... Itinéraire de travers. Et pourquoi travers?
Parce que je pense que dans la vie, il n'y a pas que des routes droites. Et que des fois, l'intérêt d'une personne ou d'un parcours, c'est souvent les chemins de travers, en fait. C'est souvent ce qui n'est pas écrit, ce dont on ne s'attend pas, en fait. Et c'est ce petit travers qui m'intéresse.
C'est se perdre.
C'est ça.
C'est continuellement se perdre.
Et pourquoi toujours vous? Pourquoi toujours...
Très bonne
pourquoi
question.
Que l'idée vient toujours de vous.
Maud, s'il te plaît, est-ce que tu peux défendre la dictature maintenant?
Parce qu'il faut bien une tête pensante.
On peut peut-être penser à plusieurs aussi,
oui,
non
oui. Alors, comment en fait ça se répartit pour être plus... On n'est pas un collectif artistique. Je sais qu'il y a beaucoup de collectifs artistiques qui se montent surtout à l'issue d'école. Et c'est très bien, c'est glorieux. Nous, on a décidé de monter une coopérative, donc il y a bel et bien une horizontalité voulue dans la stratégie, donc qu'est-ce qu'on met en place, donc comment est-ce qu'on travaille, dans la réflexion par rapport à comment est-ce qu'on touche les habitants, par exemple, comment est-ce qu'on mène les ateliers. Là-dessus, chacun a droit à la parole. Qu'est-ce qu'on fait du bénéfice ou du déficit à la fin de l'année? Là, tout le monde a droit à la parole. C'est quelque chose qui se décide collectivement. Le projet artistique, par contre, on tient vraiment à ce que la direction artistique de la compagnie, elle soit assurée par une personne et qu'elle ait toute liberté au niveau du projet artistique. Après, personne ne crée seul et surtout pas une compagnie de théâtre. Je ne sais pas écrire, enfin avec mes pieds, c'est tout. C'est Uriel qui écrit et c'est son imaginaire, c'est sa façon de travailler, c'est sa patte. Je ne joue pas au plateau et c'est les comédiens, musiciens qui sont là et qui donnent corps et qui, par leurs envies, par leurs imaginaires, font naître les spectacles. Quelque part, moi, je suis l'initiatrice et l'accompagnatrice, mais l'accouchement, je le regarde, et des fois, j'en suis la première étonnée.
Et l'œil extérieur, parce qu'il faut c'est toujours ça. Un œil extérieur pour des créations.
Tout à fait.
Et donc, chacun amène, avec sa personnalité, amène...
Le même spectacle avec une autre personne, ou même les ateliers faits avec une autre personne ne seraient pas les mêmes du tout. Je tiens à ce que chaque personne dans une compagnie, elle a sa spécificité, sa singularité. Et c'est parce que Uriel écrit comme ça que j'apprécie travailler avec elle. C'est parce que Lucille Duplat, qui est donc une comédienne de l'équipe, a cette façon-là d'appréhender les ateliers, d'appréhender le plateau, que j'aime travailler les improvisations avec elle. C'est parce que Marie-Pierre, elle a un imaginaire qui me fait rêver, que j'aime travailler avec elle. Mais c'est sûr que qu'est-ce qui va souder l'équipe? Qu'est-ce qui va lancer? Sur quoi je pense que la compagnie devrait se questionner? C'est toujours moi qui initie.
Il y a une énergie qui est transversale là, à ce moment-là. Oui. Vous vous passez cette énergie l'un à l'autre, comédien, comédienne.
Oui, parce que Baïja est quand même très à l'écoute des propositions qu'on fait à partir de l'idée qu'elle lance. Mais je pense que c'est quelque chose qui est venu à l'école aussi, que finalement le premier projet qu'on a monté, même avant le texte de Toni Morrison, même vraiment à la compagnie Premier Acte où on s'est rencontrés, il y a quelque chose qui est venu de Baïja, et comme après on a retravaillé ensemble, il y a quelque chose d'assez naturel qui s'est mis en place de cette façon-là. Et puis tout le monde ne peut pas être leader en ce qui me concerne. Je me suis rendu compte que j'étais ni, que j'étais pas une meneuse d'hommes ni de femmes, et ça m'allait très bien de cette façon-là.
Alors Baïja, d'où vient votre questionnement, le sens de votre démarche?
Joker. Non, d'où vient un questionnement? Ça me paraît, c'est difficile. En fait, je me pose la question sur qu'est-ce qui, à mon sens, doit être dit ou doit être questionné à l'heure actuelle. Sur le projet Route d'Antan, il m'a semblé que la question des Roms, que la question de l'Europe, que la question du génocide, elle interrogeait. Et on a été rattrapé par l'actualité parce que notre premier débat a été lancé quelques jours avant l'affaire Léonardin. Là, sur l'affaire, sur Itinéraire de travers, moi, ce qui me paraissait important, c'était de re-questionner le socle qui nous rassemble, le socle humain qui nous lie, qu'on soit un homme, qu'on soit une femme, qu'on soit hétéro, qu'on soit religieux, qu'on soit athée, c'était important, qu'on soit vieux, qu'on soit jeune, de remettre le doigt sur ce qui était, sur ce qui fondait notre humanité. Et quelque part, je me suis dit, peut-être qu'on a encore été rattrapé par l'actualité avec ce qui s'est passé à Charlie Hebdo. Parce que nous, on avait comme idée de faire un débat le 16 avril, qui aura lieu à Salagnon, avec la question prendre son stylo ou son clavier, mais quelle idée?
Voilà. Et quand vous partez ainsi, quelle est la perception qu'ont les personnes que vous interrogez, le public, je veux dire, ou le futur? Comment est-ce que vous arrivez à justement vous présenter? Est-ce que les personnes interrogées jouent le jeu immédiatement, d'emblée, ou il faut les apprivoiser?
Ça dépend. Il y a plusieurs types de personnes. Il y en a qui sont partantes dès le départ, d'autres qu'il faut apprendre à se connaître, apprendre à voir comment les uns et les autres travaillent. Mais en règle générale, on a plutôt des retours positifs parce qu'on est, on est dynamique, on a envie qu'il y ait des choses qui se passent, on a des idées, on a envie de ponctuer nos résidences de débats, on a envie de ponctuer nos résidences de rencontres, on a envie d'offrir des spectacles. Et bon, on a quelques réfractaires qu'on ne nommera pas, mais ils sont minoritaires.
Et comme on fait toujours un pot à la fin des débats, ça encourage.
Oui, fait.
Si, c'est important.
Et comment vous arrivez à vous implanter dans un territoire?
Alors, déjà, pourquoi les balmes dauphinoises? Il faut savoir que le théâtre d'Anouki, son siège social est à Saint-Marcel-Bel-Accueil, admirable et charmant village dans les balmes dauphinoises. On a fait ce choix, on s'est questionné, Maud et moi, on s'est dit où est-ce qu'on voulait être, où est-ce qu'il nous paraissait important de travailler. Le théâtre, comme la poésie, les arts, n'ont pas de frontières. Ils n'ont que des rencontres. Et on avait, avec un don, tourné dans différentes villes. On s'est dit, où est-ce qu'on souhaite aller? Et bien, justement, pas dans une ville. On souhaite aller à un endroit où il n'y ait pas de gros équipements culturels. On souhaite aller dans un endroit où il n'y ait pas beaucoup d'offres d'institutions culturelles, mais où il y ait des dynamiques et où on soit là pour fédérer, en fait, autour de ces dynamiques.
Et le choix de Saint-Marcel, pourquoi?
J'avais de la famille et on avait des locaux de stockage. Très pragmatique. Okay. Ça, c'est... On a failli tirer à pile ou face et puis on s'est dit locaux de stockage. C'est bon.
ter sentido. E antes de ser fado é mar, eu trago um fado guardado dentro da palavra amor. E é onde o fado é mais fado, e antes de ser fado é dor. Trago um fado que nasceu na palma da minha mão, onde o fado é teu e meu. E antes de fado é paixão. Trago um fado que nasceu na palma da minha mão, onde o fado é teu e meu. E antes de fado é paixão.
Toujours sur Couleur FM 97.1, nous venons d'entendre Christina Branco dans Trago un Fado de l'album Chrono. Alors Baïja, j'aimerais vous poser, on a compris qu'il y avait à Saint-Marcel un lieu de stockage, mais comment se fait votre implantation dans le territoire pour mener à bien vos actions?
Alors, quand l'équipe décide de travailler quelque part, la première chose qu'on fait, c'est de rencontrer les communes. Parce que c'est les acteurs qui connaissent le mieux les habitants sur des communes extrêmement petites comme les Balmes Dauphinoises, comme les communes des Balmes Dauphinoises peuvent l'être. Après, on travaille également avec les associations qui existent, des associations de pratiques amateurs, des compagnies de théâtre, des clubs de photos, et je vais en oublier, des associations autour du patrimoine. Ben voilà, on y va, on leur présente le projet, on se présente nous, on prend le temps également de comprendre comment fonctionnent ces associations, qu'est-ce qu'elles font, comment travailler en partenariat avec eux, comment être complémentaires, quelles sont les actions de notre projet qui peuvent les intéresser et vice-versa. Et après, on fait un travail également de porte à porte pour inviter les gens à venir au débat. Et ça se passe.
Et en ce moment-ci, où en êtes-vous au niveau de justement itinéraire de travers? Vous avez donc maintenant rencontré les partenaires que
oui.
vous vouliez. Et voilà.
On a rencontré les partenaires institutionnels, les partenaires confidentiels. Et l'équipe a commencé à travailler en résidence. Donc quand on travaille en résidence, une partie de l'équipe est logée chez les habitants, ce qui nous permet de faire une première rencontre et une première approche. D'ailleurs, si des habitants ont des granges ou des dortoirs à mettre à disposition, on serait ravis. On aime beaucoup. Après, du coup, on a commencé également à lancer les débats. Le premier a eu lieu le 5 mars. Le prochain aura lieu le 16 avril à Salagnon à 19h30 autour de la question de l'écriture contemporaine. L'équipe est réunie, lancée, l'écriture, elle a commencé à écrire, Rial. Les textes ne sont pas encore complètement bouclés et les comédiens s'en emparent. Rial revient en répétition, retravaille son écriture en fonction de ce qu'elle voit, de ce qu'elle entend, que les comédiens se sont imprégnés de ces textes, et c'est un va-et-vient. qui aboutira le 30 mai pour le premier spectacle.
La date est déjà fixée, le 30 mai, et ce sera où ? Vous avez déjà un lieu ou vous avez uniquement la date ?
On a uniquement la date, a priori ça serait Saint-Chef, mais rien n'est encore garanti.
D'accord, de toute façon...
Mais on vous tiendra informé.
Vous nous tenez informé. D'abord, nous viendrons, mais ensuite, on fera suivre l'information.
Alors, quelle est cette démarche artistique dans ce nouveau projet ?
Alors, la démarche artistique, c'est de continuer, on va dire, le travail de métissage des arts qu'on a envie de faire, le travail autour de l'écriture contemporaine qui, moi, me paraît central. J'apprécie énormément l'écriture de Rial. Et pour moi, la démarche artistique de la compagnie, c'est de mêler l'intime de chacun, d'où ces questions autour de l'humanité, et l'universel. Faire que ce parcours de vie, ça ne soit pas mon histoire, mais ça devienne une histoire qui ne m'appartienne plus. Et c'est un peu ce que, pas à pas, les comédiens en tant que passeurs, moi en tant que coordinatrice, l'auteur en tant que peut-être instigatrice, on essaye de faire.
Et est-ce que ce seront des témoignages ou bien c'est toute une histoire
Alors ça ne sera pas des témoignages, ça sera fait comme une fiction, on va dire.
Voilà.
Pas uniquement à partir d'une vie, mais à partir de plusieurs. Peut-être que de certaines rencontres, Uriane ne gardera qu'un mot. Peut-être que les comédiens de certains habitants, ils ne garderont qu'une posture, qu'un regard. Mais nous, on parle vraiment de création nourrie. C'est-à-dire que ce n'est pas une création partagée. Les amateurs avec qui on travaille ne sont pas sur le plateau à l'issue avec les représentations professionnelles. Mais elles sont nourries de ces rencontres. On souhaite à tout prix ne pas travailler dans une boîte noire, mais travailler à la rencontre des gens. D'où le fait d'être logé chez les habitants, par exemple.
Et comment vous faites ? Vous prenez des photos, vous enregistrez, vous filmez ? Comment vous gardez...
Trace ?
Oui, la trace.
C'est une vraie question, la trace de l'immatériel. Parce que les spectacles sont de nature éphémère, et je trouve que c'est quelque chose de beau. Enfin, l'idée que tout n'est pas enregistrable et qu'il y a des choses qui peuvent se perdre, ce qui n'est plus possible sur la toile à l'heure actuelle. On prend des photos et on travaille pas à pas, et même pour le travail, pour la recherche artistique, moi par exemple, j'espère que le théâtre d'Ankis un jour continuera sans moi à sa tête, qu'il y ait d'autres personnes qui reprendront cette coopérative et l'envie de travailler avec des associations, avec la fédération Léo Lagrange, avec la région, et que ça sera un autre projet et une autre manière de travailler qui irriguera cette structure.
Ça veut dire, Baïja, que vous avez déjà d'autres idées en tête.
Dès que je dis ça, tout le monde pense que je pars à la retraite.
Nous aussi, mais, nous aussi on a déjà eu peur.
Tous les comédiens ont fait ça, mais tu vas partir, mais on commence, c'est pas normal. Non, c'est que je pense que c'est important de penser la transmission.
Oui.
Que la transmission ne se pense pas que le jour du départ.
Ah non, c'est très long.
Voilà, elle se pense pour moi dès le départ, en fait, de se dire je crée, je fais, mais je dois toujours penser à un moment où moi je ne serai pas là. Et où là, si le projet doit continuer, bah, il doit continuer sans moi, il doit continuer par-delà moi. Mais non, j'ai pas l'intention de partir, si vous pouvez me réinviter l'an prochain. C'est tout à fait possible.
En fait, c'est vous insuffler une méthode de travail, une méthodologie.
Ça. Une façon de faire.
Une façon de faire, voilà, c'est une école en fait, quelque part.
Tu retournes à l'école, Maud.
Non, je pensais plutôt au lien avec l'humain, puisque là tu veux travailler sur qu'est-ce qui fonde notre humanité et les fantômes, les avant, les après, puisqu'on va sûrement parler du texte de Derrida, et ça me fait penser à ça, plutôt que le théâtre d'Anoukis va être transgénérationnel, peut-être. On le souhaite.
On le souhaite.
On peut en profiter, Maud, pour vous demander de faire une lecture, pour déjà se plonger dans... C'est déjà un texte de...
Alors, c'est ce que j'appelle mes textes d'inspiration.
D'accord.
C'est-à-dire que quand on monte un projet de création, moi, je me nourris toujours de peintres, d'autres textes, de poésie, qui ne se retrouvent pas toujours d'ailleurs, ou même pas du tout dans les spectacles finaux. mais qui sont pour moi un matériel et l'équipe s'en nourrit. C'est-à-dire que l'humain, je l'aborde de plein de façons différentes. Et donc, qu'est-ce qui m'a profondément touchée et qu'est-ce qui... Voilà, c'est un texte où je me suis dit, à un moment, il faudra que j'y revienne et que je pousse plus loin ce qui l'a déclenché en moi. Voilà.
C'est une base
c'est
de
ça,
travail.
C'est une base.
D'accord. Maude, nous vous écoutons.
Jacques Derrida, Spectre de Marx. Quelqu'un, vous ou moi, savant s'est dit, je voudrais apprendre à vivre, enfin. Enfin, mais pourquoi ? Apprendre à vivre. Étrange mot d'ordre. Qui apprendrait ? De qui ? Apprendre à vivre, mais à qui ? Saura-t-on jamais ? Saura-t-on jamais vivre ? Et d'abord ce que veut dire « apprendre à vivre ». Et pourquoi ? Enfin. Locution magistrale, néanmoins. Car, par la bouche d'un maître, ce morceau de mot d'ordre dirait toujours quelque chose de la violence. Il vibre comme une flèche dans le cours d'une adresse irréversible et dissymétrique, celle qui va le plus souvent du père au fils, du maître au disciple, ou du maître à l'esclave. Je vais t'apprendre à vivre, moi. Telle adresse hésite alors, entre l'adresse comme expérience, apprendre à vivre, n'est-ce pas l'expérience même, l'adresse comme éducation, et l'adresse comme dressage. Mais apprendre à vivre, l'apprendre de soi-même, tout seul, s'apprendre soi-même à vivre. Je voudrais apprendre à vivre enfin. N'est-ce pas pour un vivant l'impossible ? N'est-ce pas ce que la logique elle-même interdit ? Vivre, par définition, cela ne s'apprend pas. Pas de soi-même, de la vie, par la vie. Seulement de l'autre et par la mort. En tout cas, de l'autre au bord de la vie. Au bord interne ou au bord externe, c'est une hétérodidactique entre vie et mort. Rien n'est plus nécessaire pourtant que cette sagesse. C'est l'éthique même. Apprendre à vivre, seul, de soi-même. La vie ne serait pas vivre autrement. Et fait-on jamais autre chose qu'apprendre à vivre seul de soi-même ? Étrange engagement pour un vivant supposé vivant dès lors que celui-ci, à la fois impossible et nécessaire. Je voudrais apprendre à vivre. Il n'a de sens et ne peut être juste qu'à s'expliquer avec la mort. La mienne comme celle de l'autre. Entre vie et mort, donc. Voilà bien le lieu d'une injonction sentencieuse qui affecte toujours de parler comme le juste. Ce qui suit s'avance comme un essai dans la nuit, dans l'inconnu de ce qui doit rester à venir. Une simple tentative, donc, pour analyser avec quelques conséquences un tel exorde. Je voudrais apprendre à vivre, enfin. Enfin quoi ? Cela ne peut se passer si cela reste à faire, apprendre à vivre qu'entre vie et mort. Ni dans la vie, ni dans la mort, seul. Ce qui se passe entre deux, entre tous les deux qu'on voudra, entre vie et mort, cela ne peut que s'entretenir de quelques fantômes. Il faudrait alors apprendre les esprits, même et surtout si cela, le spectral, n'est pas. Même et surtout si cela, ni substance, ni essence, ni existence, n'est jamais présent comme tel. Le temps de l'apprendre à vivre, un temps sans présent tuteur, reviendrait à ceci, l'exorde nous y entraîne. Apprendre à vivre avec les fantômes, dans l'entretien, la compagnie ou le compagnonnage, dans le commerce sans commerce des fantômes. À vivre autrement et mieux. Non pas mieux, plus justement, mais avec eux. Et cet être avec les spectres serait aussi, non seulement, mais aussi, une politique de la mémoire, de l'héritage et des générations. Si je m'apprête à parler longuement de fantômes, d'héritage et de générations de fantômes, c'est-à-dire de certains autres qui ne sont pas présents, ni présentement vivants, ni à nous, ni en nous, ni hors de nous, c'est au nom de la justice. De la justice là où elle n'est pas encore, pas encore là, là où elle n'est plus. Entendons, là où elle n'est plus présente et là où elle ne sera jamais, pas plus que la loi, réductible au droit. Il faut parler du fantôme, voire au fantôme et avec lui. Dès lors qu'aucune éthique, aucune politique révolutionnaire ou non, ne paraît possible et pensable et juste, qui ne reconnaisse à son principe le respect pour ces autres qui ne sont plus, ou pour ces autres qui ne sont pas encore là, présentement vivants, qu'ils soient déjà morts ou qu'ils ne soient pas encore nés.
Couleur FM 97.1, nous sommes sous la houlette de la déesse Anoukis avec Baïja Lidaouan et Maude Hardier. Nous avons entendu Catherine Ringer dans Secreto de l'album Plaza Francia, A New Tango Songbook, Live Re-Experience. Et cet album contient deux disques comprenant les chants classiques de tango et puis un second revisité. Et c'est ce second choix que l'on vous propose aujourd'hui. Très belle pochette, beau cadeau à faire.
Alors pour votre projet, Baïja Itinéraire de Travers, vous avez fait un choix esthétique qui est celui de nous plonger dans le land art. Pourquoi ce choix ?
Alors, parce que j'apprécie beaucoup la philosophie du Land Art, l'idée de se dire que les galeries d'art, c'est avant tout à ciel ouvert. Et que pour moi, l'aspect esthétique des spectacles est très important. C'est-à-dire qu'on parle d'abord et avant tout au sens, avec des corps, avec des voix, avec des gueules, avec, avec des costumes, avec des lumières. Et donc, autour de ces sens, j'ai fait la proposition à Marie-Pierre Morel Lab de s'inspirer du Land Art en lui disant « mais détourne-le, utilise non pas des éléments naturels mais des artefacts, faisant ta table d'expérimentation avec des œuvres monumentales, avec des œuvres minimalistes, avec des œuvres que le public verra au loin, avec des œuvres que le public traversera. » Voilà, c'est un écrin à ciel ouvert.
Et Maud, comment vous sentez-vous dans ce genre de travail ? Bon, vous connaissez forcément, mais comment vous situez-vous et sentez-vous ce genre de travail et justement à ciel ouvert, comme le dit Baïja ?
Ouf, on a déjà joué en extérieur. Moi, j'ai juste le problème que je suis extrêmement frileuse, donc je suis obligée de beaucoup prendre sur moi, mais sinon c'est assez comment dire, agréable finalement de travailler dans ce contexte-là, surtout quand on parle de l'humanité, parce qu'il y a une espèce de lien à la nature et à la terre qui du coup est très fort et très nourrissant en fait pour le travail.
Et vous et vos autres collègues comédiens ressentent la même chose ? Vous en parlez ? Comment se passe le travail entre vous, comédiens ?
On aime bien se parler. On s'échange des trucs pour lutter contre le froid. non, je plaisante, je reviens pas là-dessus. Différemment, chacun, mais oui, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Ça nous permet aussi de nous couper de notre quotidien de citadin, puisque là, les trois comédiens sur ce projet, on habite à Lyon ou Villeurbanne, et en dehors de ce lien à la nature et aux forces primitives qu'on peut ressentir et qui nourrissent vraiment le travail artistique, il y a aussi quelque chose de l'ordre du cocon, où du coup on coupe avec vraiment notre quotidien pour venir travailler dans un lieu qui nous est familier et étranger à la fois et qui nous permet de ne penser que voilà qu'aux itinéraires de travers pendant le temps donné des résidences. Donc on adore, on adhère.
Vous verriez maintenant en tant que comédienne venir sur le plateau, travailler sur le plateau, uniquement sortir le texte qu'on vous a demandé de sortir? Je pense que c'est un travail tout à fait différent maintenant. Vous avez passé à un autre cap.
Oui, j'imagine. Oui, c'est différent. Après, je pense que si... c'est pas prévu que les itinéraires de travers aillent en salle. Hein, ça ferait pas du tout de sens. Mais si on devait réutiliser ces textes, je pense qu'après, il y a plein de sensations, d'images qui sont là et qu'on pourrait, entre guillemets, convoquer, sans vouloir faire sorcière, au moment d'une restitution... autre.
Parce que vous avez vécu ce Land Art. Mais voilà, imaginez-vous que vous faites abstraction de cela, vous n'avez pas connu et vous branchez sur un plateau et l'approche doit être totalement différente, vraiment.
Oui, c'est pas la même pour des choses très pragmatiques aussi qu'on n'imagine pas, mais voilà. Sur un plateau de théâtre, voilà, et c'est à peu près plat, l'acoustique est bien, il n'y a pas de vent. On marche et on met le pied dans un trou, dans une taupinière. Donc oui, c'est sûr, c'est une approche très différente.
Et pleine d'exercices, comme vous le dites, parce que ce n'est pas uniquement la parole, la mémoire, c'est
très
la nature,
le théâtre.
Voilà,
très
corporel.
Déjà, c'est très corporel, mais ça l'est peut-être encore plus.
Oui.
Et la philosophie est différente aussi. Les spectacles ambulatoires, enfin,
déambulatoires
plutôt, oui. C'est un échange aussi avec avec les gens qui vous suivent, qui vous précèdent.
Oui.
On est mêlés aux gens.
On est mêlés aux gens.
C'est totalement différent d'un spectacle en salle.
Oui. C'est oui, et du coup, ça met dans une espèce de communion toujours avec le théâtre. Mais on parlait tout à l'heure du côté éphémère du théâtre. Je trouve que le Land Art et le fait de travailler en extérieur, ça rend ça encore plus éphémère, puisque la nature va changer, puisque du coup, l'installation qui sera faite quand elle... voilà, pour l'instant, c'est encore pas arrêté. Évidemment, on ne peut pas le faire si tôt pour quelque chose qui aura lieu fin mai. Ça aura tout bougé. Mais c'est le Land Art n'a pas vocation à forcément à durer, le théâtre non plus. Donc il y a quelque chose de un espèce de méga combo qui rend la chose encore plus forte. Et je pense que le public quand le ressent, on l'a pas testé. On avait joué en extérieur Bartalodrome. Après, on n'a pas encore testé les formes Land Art avec le public. Mais je pense que les déambulatoires avec le public, oui, pardon.
Nous, ce qu'on imagine, c'est vraiment quelque chose d'assez convivial. Ça va être des personnes qu'on aura sûrement, pour la plupart, pour certains, rencontrées lors d'ateliers, avec qui on aura bu un verre, avec qui on aura dormi, chez qui on aura dormi, plutôt. C'est une petite variante. Mais voilà, l'idée, c'est même dans les textes, j'ai demandé à Riyad d'aller vers quelque chose de... qui amène le sourire, qui amène l'empathie. Je pense que quand on a le sourire aux lèvres, le cœur s'ouvre plus vite. Voilà.
Et c'est un échange. J'imagine qu'à chaque fois, ça, vous allez ressortir différemment aussi le texte, enfin, ou le texte ou l'interprétation, je ne sais pas comment il faut appeler ça, mais peut changer avec, après chaque représentation.
Alors le texte, non.
Pas le texte.
Ils vont mourir, les comédiens. Ils ne suivent pas. Mais l'interprétation. Oui.
L'interprétation avec chaque fois l'échange que vous aurez eu.
L'interprétation, on va dire que pour moi, c'est quelque chose qui doit grandir. Il y a un premier jet, et puis à la deuxième représentation, il y a déjà un pas qui a été fait. Il y a quelque chose qui s'est installé, qui a germé. D'où notre nom d'Anoukis, ceux qui croient. Et donc l'interprétation elle évolue, même si la mise en scène, c'est ça qui est paradoxal, c'est quelque chose d'arrêté, les mouvements sont arrêtés, les regards sont arrêtés, et même si l'imprévu est possible, au final il y a quand même toute une chorégraphie, toute une partition qui est écrite, qui est rythmique, et là-dedans c'est dans toutes ces contraintes-là que l'interprétation et la singularité des comédiens est, je trouve, la plus belle.
Il y aura donc aussi des circuits.
Oui.
Donc on va se balader quelque
avec
part
par avec ici. Nous.
Est-ce que ce sera des endroits où on pourra trouver des traces de patrimoine, quelque chose de une mise en valeur de ce qui est de culturel dans notre région?
Alors du patrimoine naturel, ça c'est évident. Pour ça, on travaille avec l'ONF, l'Office national des forêts. On va rencontrer des associations de mise en valeur du patrimoine. Le patrimoine du Dauphiné est merveilleux et des fois méconnu. On souhaite travailler également avec la maison du patrimoine. Enfin, on va travailler avec la maison du patrimoine de Saint-Chef autour de ces questions. Quant au patrimoine bâti, alors là, il n'est pas sûr qu'on passe véritablement à côté ou dessous ou dessus. C'est encore à définir, mais le patrimoine naturel, oui, lui nous intéresse, et c'est pour ça que nous allons faire un débat le 17 septembre, si je ne dis pas de bêtises, à Saint-Chef, autour de cette question: le patrimoine, franchement, ça sert à quoi?
C'est retrouver ses racines pour aller plus loin, de toute façon.
Il faudra venir pour en débattre.
Voilà, déjà une piste, Titane.
Je commence à réfléchir.
Non, je note.
Et quand vous avez parlé plusieurs fois d'atelier,
oui.
Comment ça se comporte? Vous prenez... Il y a des inscriptions?
Alors, il y a deux types, on va dire, d'ateliers. Il y a les ateliers qui sont pris par des structures, c'est-à-dire que les structures, avec les publics avec qui elles travaillent, souhaitent mettre en place des ateliers. Et il y a des ateliers qui peuvent être également à l'initiative de particuliers. Et là, c'est eux qui regroupent un groupe, on va dire une dizaine de personnes en règle générale, et c'est un intervenant de l'équipe qui vient. Ça se passe toujours bien dans les deux cas.
Et dans ce cas concret, ces ateliers pour justement cet
itinéraire,
j'y arriverai, cet itinéraire...
c'est un métier.
Les personnes travaillent, qu'est-ce qui se passe dans cet atelier?
Alors là, ça dépend. C'est-à-dire qu'il y a des ateliers, par exemple, qui vont être avec Rial autour de l'écriture. Mmh. Il y a des ateliers qui vont être avec Marie-Pierre, cette fois-ci, au plastique.
D'accord.
Il y a des ateliers qui vont avoir lieu avec Sophie Rocoul, qui est donc notre graphiste autour des arts visuels. Donc, en fait, là, c'est vraiment selon la personne, ses envies, selon la structure, son projet d'établissement, si j'ai envie de dire. Et nous, on tisse ensemble en lien avec notre projet. Et on fait en sorte que le projet soit assez large pour qu'on puisse tisser dans toutes les directions.
D'accord.
Et comment on s'inscrit?
Et qui peut s'inscrire?
Il n'y a pas de limite d'âge.
Et ah
bon non. Nous, on accepte tout le monde lors des ateliers. Et alors, pour s'inscrire ou pour avoir plus d'informations, il y a deux façons de nous joindre. C'est théâtredanoukis, tout attaché, @gmail.com. Ou nous retrouver sur Facebook. Voilà. C'est les deux façons principales d'avoir plus d'informations sur ces ateliers, ces spectacles et ces débats.
Et on est dans les temps pour s'inscrire.
Pour s'inscrire, pour nous proposer des granges, pour nous inviter chez vous et pour venir partager nos pots, nos débats et nos lectures multiples et variées.
Parce que vous avez un calendrier très très précis. Hein, je l'ai sous les yeux.
Et qui est fait très très en amont des projets.
Oui.
Et l'année dernière, on vous a rencontré, vous étiez en résidence au Millennium à l'île d'Abo. Et maintenant, ça continue? C'est cette même résidence?
Non, le Millennium poursuit, avec qui on a fait un super travail et qu'on remerciera jamais assez, de nous avoir fait confiance. Et parce que c'est avant tout de la confiance. Le Millennium souhaite continuer du coup un travail avec des artistes associés, mais pas avec nous, et c'est très bien, parce que des fois des artistes associés s'installent pendant 50 ans dans une maison et ils en sont indélogeables. Et nous, on s'est dit qu'au bout d'un an, on pouvait y aller, et on allait partir sur d'autres endroits, mais on continue, on reste en très bons termes, et on les remercie encore, eux et toute l'équipe qui est derrière.
Et donc, en ce moment, vous êtes en résidence ou non?
Dans les Balmes, c'est-à-dire que c'est une résidence de territoire.
D'accord, c'est le territoire.
Il n'y a pas de structure identifiée et identifiable. Mm-hmm. Il y a la bonne volonté des uns et des autres. Et il y a les communes qui commencent à nous aider et on les remercie. Et après, il y a les partenaires institutionnels comme le Conseil général de l'Isère, comme la région, comme la DRAC, qui du coup sont des soutiens précieux également.
Je comprends mieux. Et puis le lien avec les ateliers, alors voilà. Également, voilà.
C'est grâce à eux qu'on peut mettre tout ça en place.
Mmh. Ateliers, stages,
rencontres.
Et avez-vous un public particulier?
Un public particulier, Maud.
Un public qui nous suit, un public fidèle.
On a un fan club, Maud a un fan club.
Ah bon?
Mais il n'y a pas de...
Lucille Duplain, un fan club.
C'est vrai, Lucille aussi. Lucille a un très bon fan club. Mm-hmm. Mais en fait, nous, on n'a pas ni d'âge. Par exemple, on travaille aussi bien avec des scolaires, avec des jeunes, qu'avec des associations qui, elles, ont un public spécifique. Donc nous, quand on nous pose la question « Quel est votre public ?», on répond souvent « Les gens qui sont là ».
Ça viendra peut-être, oui. Pour l'instant, je pense qu'on ne sait pas encore. Mais on espère qu'on aura un public qui va nous suivre de longues années et transgénérationnellement.
Non, on a mis en place une newsletter, c'est encore la meilleure façon de rester informé de tout ce qu'on fait, qu'on envoie mensuellement et on s'y tient maintenant. Et là-dedans, il y a 500 abonnés. C'est pas beaucoup, mais c'est quand même très bien pour une structure qui a 2 ans d'âge. Et dans ces 500 abonnés, y en a dans les Balmes, il y en a à l'étranger, il y en a à Nantes. Il y en a dans l'Allier, voilà.
C'est super. Et c'est beaucoup de travail, une lettre comme ça de liaison, ça
oui.
Demande beaucoup de...
Mélodie et Alix,
oui.
Qui sont présentes secrètement, nous aident fortement là-dessus.
Ah oui, c'est bien.
What they do the mambo in Paris? C'est quelque chose. When they do the mambo through Régilly, ça, la vie en rose. How they love the mambo in Paris, ça, c'est magnifique. When they do the mambo in Paris, ça, c'est très très chic. Madame Dupont,
mambo.
Monsieur Dupont,
mambo.
Mamsel Dupont,
mambo.
They love to le maréchal, la femme fatale, la roue pigale, they love to... One day do the mambo in Paris, chacun a son goût. No one ever needs psychiatry, tout le monde fou. Everybody mumbles in Paris, même la vieille Marie. He goes out alone and so does she. Vive la liberté, le balajo. She Fizzo, même Ungaro. They love to just like a yike, sometimes a fike, the George sank, they love to yeah.
Have a love of mambo in Paris.
Ça, c'est magnifique. Ça, c'est très très chic, le balladio. J'ai Fizzo, même Ungaro. They love to just like yikes. Sometimes a fright, le George Sank. They love to
Si, 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 mambo de Parigi.
Ooh la la, that's right, Mambo de Paris. Ooh la la, it's the latest fashion. Ooh la la, oh Mambo Mambo. Ooh la la.
Toujours sur Couleur FM 97.1. Nous venons d'entendre Sir All Girls dans Mambo de Paris de l'album Just a Gigolo. Ici aussi, on retrouve le jazz revisité avec une grande pointe d'humour.
On parle d'humour, mais c'est parfois de l'humour grinçant. Si on parle de la discrimination femmes-hommes, pour le moment, ce sont des projets qui naissent un peu partout et on en discute pas mal. Et vous-même, au sein du théâtre d'Anoukis,
on en parle et on souhaite en débattre, parce qu'il y a beaucoup de créatrices au sein du théâtre d'Anoukis. Et parce que dans cette question de l'humanité se pose à un moment ou à un autre la question des différences, mais on souhaite l'aborder avant tout du point de vue de ce qui nous rassemble et d'évoquer en second lieu cette question de l'égalité comme un horizon qu'il faudrait atteindre si possible rapidement. Et l'égalité femmes-hommes, on a souhaité du coup organiser des débats autour de cette thématique. Tout le long de nos projets, on met en place une saison des débats avec des thèmes qui irriguent notre projet. Et le premier débat a eu lieu le 5 mars avec Antonietta Pardo-Alarcon, qui du coup est venue autour de la question égalité femmes-hommes. Le secteur culturel est-il vraiment exceptionnel ? Et un second débat aura lieu avec Éric Palandre le 15 mai au Café Fanny à Saint-Marcel-Bel-Accueil à 19h30 autour de cette question. Égalité femmes-hommes, on en est où et on fait quoi?
C'est un vaste sujet parce que... En même temps, il y a un basculement aussi entre hommes et femmes... Bon, on va pas débattre maintenant. Parce que
on ne déflore pas les débats. Oui, on attend la date.
Et puis, on déborderait là très, très, très vite. Mais Maud, on peut peut-être vous demander une lecture à nouveau et qui parle toujours concernant les itinéraires.
C'est une autre des bases.
Des bases.
Ça ne sera pas donné dans les itinéraires de travers, mais ça a été et c'est une des bases de notre travail.
Mmh. Vent de Saint John Perse. C'était de très grands vents sur toute face de ce monde, de très grands vents en liesse par le monde, qui n'avaient d'air ni de gîte, qui n'avaient garde ni mesure, et nous laissaient, hommes de paille, en lent de paille, sur leur air. Ah oui, de très grands vents sur toute face de vivant, flairant la pourpre, le cilice, flairant l'ivoire et le tesson, flairant le monde entier des choses, et qui couraient à leurs offices, sur nos plus grands versets d'athlètes, de poètes. C'était de très grands vents en quête sur toute piste de ce monde, sur toute chose périssable, sur toute chose saisissable, parmi le monde entier des choses. Et d'éventer l'usure et la sécheresse au cœur des hommes investis, voici qu'ils produisaient ce goût de paille et d'aromates sur toute place de nos villes, comme au soulèvement des grandes dalles publiques. Et le cœur nous levait aux bouches mortes des offices. Et le Dieu refluait des grands ouvrages de l'esprit.
Très beau texte.
Oui, le vent, là, on est dans la nature, et secoué par la nature. Maud, vous collaborez à d'autres compagnies. Avez-vous le temps de vous partagez, partagez le temps de...
C'est une vraie question.
Oui.
Les 24 heures du monde.
C'est une question de priorité. Il y a cette super histoire du professeur qui montre un vase à ses élèves, qui le remplit de cailloux et il dit « Est-ce qu'il y a encore de la place ?» Et les élèves disent « Non ». Et là, il met des graviers qui se mettent entre les cailloux. Il dit « Est-ce qu'il y a encore de la place ?» Les élèves disent « Bah oui, peut-être. » Il sort du sable, il met du sable, il dit « Et là ?» Et là, les élèves disent « Bah non, là, il y a le sable, c'est fini. » Et il sort et il met de l'eau. Et ça me parle beaucoup. Et il dit « Vous savez ce que ça voulait dire ?» Et je crois qu'il y a un des élèves qui doit dire « Oui, ça veut dire qu'en fait, on peut en faire plus que ce qu'on fait et qu'il faut qu'on s'y mette. » Il dit « Non, ça veut juste dire que c'est une question de priorité. Si vous aviez mis l'eau d'abord, comment faire rentrer le sable? Comment faire rentrer les graviers et les gros cailloux? On n'en parle pas. » Donc, je pense que c'est plutôt... voilà.
Là, vous êtes à ras du vase. Il n'y a plus que l'eau à rajouter.
Disons que non, cette année, ça va. Je pense qu'enfin, j'arrive à trouver les priorités et l'équilibre. Mmh. Ce qui est sûr, c'est que le théâtre d'Anouki, c'est, on va dire, ma compagnie et que j'y tiens énormément. Donc, c'est prioritaire au départ.
Vous êtes harpiste. Est-ce que vous donnez des concerts?
Des concerts, non. Ça a été plus exactement, il m'arrive de faire des récitals vraiment dans des cadres particuliers, par exemple pour des maisons de retraite, quand on me demande, comme là j'ai eu une messe irlandaise de Gilles Mathieu que j'avais créée à la base avec les chœurs de l'INSA et qui a été repris avec À cœur joie sur Lyon. Mais moi, ma volonté était de travailler dans l'univers du théâtre. Voilà, c'est un peu là où je me sens chez moi, d'un point de vue professionnel.
Et vous créez, donc, ou vous accompagnez, cela vous arrive
C'est du soutien de texte, j'accompagne des textes, c'était ça la question. C'est du soutien de texte, soit avec des morceaux, soit avec des ambiances, de la création d'ambiances sonores, la création de bruitages. Donc, voilà.
La harpe et d'autres instruments de musique.
L'accordéon, récemment, puisque ça ne fait que 3 ans que j'en fais. Donc,
mais elle en fait très bien.
Tout est relatif. De faire de la musique, ça permet d'avancer plus vite. Après, ça reste mon deuxième instrument.
Oui, on arrive au bout de nos itinéraires, qui, nous l'espérons, étaient droits.
Et merci beaucoup.
Mais les travers, c'est pas mal aussi.
Hein. Ah, j'aime bien les travers.
C'est même mieux quand c'est le travers. Oui.
Merci beaucoup, Baïja. Merci, Maud.
Merci.
Merci, Daniel.
Merci, Tétane.
Merci, Laurent. Et puis, toujours bon printemps des poètes à tous et à se retrouver peut-être sur les bancs du théâtre d'Anoukis. Merci.